Alors bonsoir, bonsoir merci. Désolé pour le pépin technique, c'est de ma faute. Grosse semaine, j'avais pas prévu à amener un ordinateur. Il se trouve que l'ordinateur que finalement j'ai trouvé au coin de la rue chez moi, comme ça, pas la prise en question. C'est pas nouveau ça, c'est comme pratique chez certaines marques qui aiment bien avoir ses propres accessoires, ses petits détails. On va en parler aujourd'hui, ce sont des stratégies de monopole pour nous obliger à consommer leurs affaires et rester dans leurs affaires. On en reparlera. Donc, mea culpa, je remercie Élise pour son... c'est bien ça, son nom? Merci pour l'ordinateur. Je vous garantis pas un show de boucan, là. C'est une présentation que j'ai montée très vite avec le temps que j'avais. Il y a quand même des graphiques intéressants, j'espère. Ce sera mieux que de voir les mimer devant vous. Mais ça se peut qu'il y ait 2-3 coquilles, vous m'excuserez, là. J'ai pas eu le temps de réviser, là. Donc, des fois, ça va bien. Alors, je me présente. Donc, comme Étienne a bien dit, je suis un des trois auteurs de « Pour une écologie de 99% ». Je vais juste montrer la page de couverture. Bruno, juste là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un livre qu'on a écrit à trois. Frédéric Legault, qui va donner la prochaine séance. Alain Savoir, qui va donner la troisième séance. Et notre livre a été construit de telle façon à ce qu'on se pose la question, la première que l'on va aborder aujourd'hui. On se pose trois grandes questions. Pourquoi est-ce que le capitalisme rentre nécessairement en contradiction avec les limites planétaires? Donc c'est une question vaste qu'on détaille en toutes sortes de mythes qui occupent la première partie de notre livre. Aujourd'hui, on va en voir principalement trois. On va voir la question de la surconsommation. On va traiter la question du capitalisme vert en général, ou la question surtout du découplage. Je reviendrai sur ce terme technique-là. Puis le troisième mythe qu'on va aborder, c'est celui de la transition énergétique, qui est sur toutes les lèvres, donc qui est aussi le principal objet d'intérêt de notre livre, c'est-à-dire qu'on s'est surtout concentré sur la question climatique, même si évidemment la crise écologique est globale et concerne à la fois la biodiversité, à la fois les terres arables, à la fois une série de problèmes graves, mais j'en ferai pas la liste ici, probablement que vous en connaissez déjà énormément là-dessus. Ce qu'on voulait faire à travers ce livre, c'est pas continuer cette liste déprimante de qu'est-ce qui va mal dans le monde, mais essayer de comprendre les causes profondes de cette crise-là et essayer de trouver des moyens de proposer un projet alternatif et de cheminer et de s'organiser pour le dépasser. Donc, c'est un peu les trois moments. Donc, la deuxième séance, dans deux semaines, ça va être Frédéric Legault qui parlera de comment, par quoi on peut remplacer le capitalisme en proposant quelques réflexions sur un projet de planification démocratique de l'économie. Le mot planification qui hante, disons, le spectre, qui rappelle le spectre de l'URSS, on essaye de lui donner une nouvelle saveur, c'est-à-dire qu'on croit qu'il est possible d'en faire un projet démocratique, et c'est ce qu'on essaye de défendre dans le livre. Et donc, ça va être l'objet de la deuxième séance dans deux semaines. La troisième séance, ça va être, on a une critique, on a un idéal, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? La troisième séance va être consacrée à comment on s'organise, c'est quoi les meilleures stratégies d'organisation pour demain matin, vous organiser, vous impliquer dans votre milieu, vous donner des outils, vous être en mesure de rassembler des gens, mener des luttes collectives dans vos quartiers et vous impliquer dans la lutte contre les hydrocarbures en particulier. Donc voilà pour le plan que j'annonce pour les trois séances. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on va surtout traiter de la question pourquoi le capitalisme ne peut-il pas devenir vert? La première question qu'on peut se poser, c'est celle de... c'est partir d'un lieu commun. Hein, c'est un peu la démarche aussi de notre écriture. On nous dit souvent... On peut avancer. On nous dit souvent... excusez-moi. Je voudrais avant donner 2-3 éléments de définition pour qu'on s'entende généralement. Bon. Le cours ici n'est pas un cours sur qu'est-ce que le capitalisme, d'où il vient, comment il fonctionne. Ça serait évidemment l'objet d'un cours complet. Donc, dans notre livre, ce que je veux faire ici, c'est vous donner quelques clés qui vont vous permettre de comprendre pourquoi, finalement, on rentre en contradiction avec les limites écologiques et ça pose un certain nombre de problèmes, entre autres, puis aussi des problèmes de justice sociale. Donc, j'insiste sur trois éléments aujourd'hui. Bon. Comment est-ce qu'on peut définir le capitalisme? On pourra avoir de vastes débats là-dessus, si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir. On va s'en tenir aujourd'hui à certains éléments clés qui sont ceux-ci. La première chose à dire, c'est que l'économie capitaliste dans laquelle nous vivons, qui est à peu près celle de tous les pays du monde, est une économie dans laquelle la majorité dépend du marché pour assurer sa survie. Donc, il existe une dépendance systématique au marché de tous les individus, et on le verra aussi également des entreprises. Mais d'abord, la majorité, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le 99%, disons, les gens qui ont besoin de travailler pour survivre, ben, nous sommes dépendants, disons, de deux façons. D'une part, dépendants parce qu'on ne peut pas travailler, si vous n'avez pas de terre, si vous ne pouvez pas décrocher le téléphone, appeler une banque pour demander 10 millions pour partir votre entreprise, si vous n'avez pas d'héritage, si vous avez, bon, bref, à peu près rien, votre seul moyen de survie, c'est évidemment de travailler. De travailler pour obtenir de l'argent, pour acheter des biens de consommation, pour satisfaire vos besoins. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une dépendance systématique au marché de deux points de vue, la dépendance pour l'emploi, la dépendance pour les biens de consommation. Dans cette relation de dépendance, évidemment, ben, ça crée de la vulnérabilité. Vulnérabilité qui peut être celle du chômage lors des crises, vulnérabilité aussi à la hausse des prix des aliments, on le voit déjà, en ce moment, liée entre autres à des enjeux de sécheresse ou d'autres problèmes liés au réchauffement climatique. Et donc, ça crée de la vulnérabilité parce que, évidemment, autant l'emploi que les biens de consommation, ben, pour la majorité de l'humanité, pour le 99%, on n'a pas de contrôle démocratique sur où est-ce qu'on devrait travailler, comment on devrait travailler, qu'est-ce qu'on doit produire, dans quelles conditions. Est-ce qu'on doit mettre plus ou moins de plastique pour emballer nos fruits qui sont vraiment très, très, très sales et qui pourraient nous contaminer? Toutes ces questions-là mirobolantes qui nous animent quand on va au supermarché puis on se dit, mon Dieu, mais qui a bien pu avoir cette idée? Évidemment, on n'a pas, l'économie dans laquelle nous sommes, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Et ce pouvoir-là, le fait que nous ne soyons pas dans une économie qui donne un pouvoir démocratique, c'est lié au fait que la production est principalement assurée par de grandes entreprises, principalement des entreprises qu'on va appeler des corporations. Donc, c'est une forme juridique assez spéciale, là, j'entre pas dans les détails, mais les corporations sont des méga-entreprises qui, essentiellement, font le gros de l'économie et qui contrôlent les moyens de production par une garantie légale qui est celle de la propriété privée. La propriété privée est garantie par des tribunaux, par un État, par la police, une armée, etc., qui s'assure que la production soit dans les mains de ceux qui la possèdent. Et globalement, on peut appeler ceux qui possèdent ces moyens de production la classe capitaliste en général. Ce sont des individus qui ont un pouvoir. Certes, on a beaucoup parlé dans les dernières années du pouvoir du 1% comme de la richesse. On s'étonne de la richesse de Jeff Bezos, puis on trouve ça évidemment ignoble. Mais l'enjeu du pouvoir dans la société capitaliste est beaucoup plus important que l'enjeu de simplement la richesse. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas seulement combien ils ont d'argent, mais quel pouvoir ils ont sur l'économie, c'est-à-dire surtout, principalement, le pouvoir de l'investissement. Le pouvoir de l'investissement dans la société capitaliste est un pouvoir privé qui est concentré dans de petites mains et généralement dans une série de grandes corporations surtout, duquel dépendent évidemment les gens pour avoir leur emploi, mais aussi après des petites entreprises qui essaient de manœuvrer dans le contexte. La dernière chose que j'ai à vous dire en lien avec ces deux premiers points, c'est que les entreprises sont également dépendantes de manière systématique du marché, bien qu'il y ait évidemment, on va le voir, des stratégies pour faire des oligopoles, des stratégies de monopole pour essayer de s'extraire de la compétition du marché. Elles sont en général aussi en compétition entre elles. Et donc, ça a un effet majeur sur l'économie en général. La première conséquence importante, puis on va y venir avec la question de la surconsommation, c'est que ça engage une dynamique de renouvellement constant des méthodes de production visant à augmenter la productivité. Donc, ce qu'on cherche à faire quand on est une entreprise, c'est produire le plus rapidement possible, au plus bas coût possible, pour pouvoir vendre le plus possible. Vendre, évidemment, à un coût concurrentiel, pour évidemment se démarquer de la concurrence, être sûr d'écouler ses marchandises. Donc, ça crée le marché crée une pression concurrentielle qui a toutes sortes d'effets, mais qui, globalement, on va le voir, a des effets d'un point de vue écologique délétères et graves. Donc, il y a une pression constante et à la concurrence en raison de la dépendance au marché. Les entreprises doivent vendre leurs marchandises, et pour ça, elles le font sur un marché. et elles doivent s'assurer qu'elles aient assez de marchandises à vendre. Et en fait, elles en produisent toujours plus pour être sûres de ne jamais manquer un seul consommateur ou une seule consommatrice. Dernière chose, en conclusion sur cette introduction, évidemment, ces entreprises, ces grandes corporations et les entreprises en général qui embauchent ceux qui n'ont rien d'autre à offrir que leur temps de travail et le fait d'être vivant, ceux qui n'ont rien d'autre à offrir que leur vitalité, doivent travailler pour ces entreprises, mais ces entreprises n'embauchent pas par grandeur d'âme, elles embauchent pour dégager un profit qui leur est tout à fait garanti du fait qu'ils sont propriétaires du travail qu'ils payent avec un salaire et des moyens de production en général. Donc ça, ce profit est donc garanti par l'État, donc il y a des structures juridiques, il y a des lois qui encadrent cette propriété-là et qui la garantissent. Et donc sans un État qui garantit minimalement la propriété privée, ça serait impossible d'avoir une stabilité dans l'économie capitaliste. L'État joue aussi un rôle immensément important que le capitaliste tend souvent à nier également. Fournir de la main-d'œuvre qualifiée par un système d'éducation, fournir de la main-d'œuvre en santé par un système de santé, subventionner très largement la recherche, payer les routes, les aéroports, les ports, etc. Donc énormément de fonds publics sont consacrés en fait, en réalité, à soutenir la production qui est privatisée et qui est dans les mains d'une minorité. Ensuite, deux derniers mots, l'économie capitaliste, ou peut-être vous l'avez déjà entendu, on présente souvent les grands entrepreneurs comme des self-made men, je dis au masculin parce qu'il y a moins de femmes dans ce monde-là, on pourrait dire aussi des self-made women aussi, mais les self-made men, vous connaissez un peu cette image-là de l'homme qui se fait tout seul. C'est un peu c'est Jeff Bezos, c'est Steve Jobs là, qui sortent de nulle part comme s'ils s'étaient construits eux-mêmes, comme s'ils n'avaient pas de famille, pas de parents, pas de rien. Puis ils n'avaient pas pris les ressources de l'État, les recherches, les subventions et tout ça pour s'accaparer les profits. Bon. Mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'entreprise capitaliste qui peut survivre sans extérioriser une bonne partie de ce que ça veut dire subvenir à nos besoins. Puis une de ces parties-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la reproduction sociale. C'est tout le travail invisibilisé qui consiste à prendre soin des enfants, prendre soin des aînés, prendre soin de nous en général, faire des repas à la maison, s'assurer qu'on puisse s'habiller correctement. Bref, tout ce qui n'est pas finalement, aux yeux de l'économie capitaliste, qui n'a pas de valeur marchande, en fait, est sous-traité, est mis à l'extérieur. Et cette sphère-là, pourtant, est absolument indispensable au capitalisme parce que sinon, il n'y aurait pas d'être humain qui serait en mesure d'aller travailler à chaque matin et de reproduire la machine. Cette reproduction sociale dans la société capitaliste depuis quelques siècles est principalement le fait des femmes par un biais sexiste qui se perpétue, qui fait en sorte, encore aujourd'hui, on en parle récemment de la grève dans les services de garde et les centres de la petite enfance, qui fait encore qu'aujourd'hui, les femmes sont globalement moins payées que les hommes en raison de ce biais sexiste qui est lié à la reproduction sociale. Dans une société capitaliste, on dit ben, « ça, c'est gratuit, c'est en dehors de l'entreprise, ça ne concerne pas ». Mais pourtant, l'entreprise ne pourrait faire absolument rien s'il n'y avait pas ça derrière. Dernière chose, évidemment, ce qui nous occupe, il n'y aurait évidemment aucune production sans une base naturelle. Nous sommes des êtres de la nature, une partie de la nature, disait Spinoza et Marx après lui. On ne peut pas s'extraire de cette nature-là et on produit évidemment à partir toujours de ressources naturelles. Dans l'économie capitaliste, contrairement à d'autres sociétés où on pensait en termes de... aux sociétés autochtones, par exemple, où on pensait en termes de 7 générations, dans l'économie capitaliste, on pense à prendre les marchandises, à prendre les ressources, à produire des marchandises et à dégager du profit le plus rapidement possible. Donc, la question de la durabilité de l'exploitation, en général, des ressources naturelles n'est pas du tout prise en compte. Et la plupart du temps, il n'y a pas de considération pour l'équilibre des écosystèmes et les limites biologiques, les limites planétaires, excusez-moi, de manière générale. Et donc, l'économie s'approprie ces ressources-là en ne retournant absolument rien. Donc, ça crée ce qu'on pourrait appeler une forme de rupture métabolique, de rupture entre, on est dans une économie extractiviste, on fait juste prendre, produire, puis après, poubelle. Mais il n'y a pas de... On a brisé une forme de... On n'a pas travaillé à une forme de circularité, mais plutôt à une forme, disons, linéaire, qui tend à avoir des effets délétères. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est absolument normal. C'est pour ça que la suite du cours existe. Donc, c'est à partir de ce moment que, on va plus parler du contenu de notre livre et de pourquoi le capitalisme ne peut pas être vert. Ça, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le bain. On nous dit souvent et on nous répète constamment, c'est le discours qui est le plus présent sur l'écologie. Dans notre livre, on a appelé ça l'environnementalisme des riches. Qui peut aujourd'hui s'acheter une voiture électrique neuve? En plus, avec les sous de l'État, c'est des subventions qui sont régressives, ça a été démontré. Hein. Ça favorise davantage les riches. Qui peut aujourd'hui s'acheter des légumes bio? Tous les jours, tout le temps, partout. Qui peut aujourd'hui avoir le luxe, comme moi, de se rendre au travail à vélo parce que j'habite dans un quartier qui est proche de mon travail? Évidemment, on le sait, avec la crise du logement à Montréal, avec la flambée de l'immobilier, plein de gens sont poussés vers les banlieues. Est-ce qu'on peut véritablement leur reprocher qu'ils doivent habiter en banlieue et prendre une voiture pour aller au travail? Poser la question, c'est un peu y répondre. Donc, la première chose à faire, c'est commencer à mettre fin à cette culpabilité qu'on essaie de faire porter aux individus sur la consommation. Pourquoi? Parce que vous allez voir deux grandes choses à vous expliquer là-dedans. La surconsommation, d'une part, la surpollution est surtout le fait de quelques grandes entreprises. Et d'autre part, lorsqu'il y a surconsommation, ce n'est pas la cause, mais c'est l'effet. C'est l'effet d'une surproduction, et c'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer de quoi il est question tout à l'heure. Oui, prochaine image. Alors, c'est un petit peu pixelisé, mais bon, ça rend quand même un peu justice au dessin. On a eu le plaisir de travailler avec Clément de Gaulle-Jacques, qui est un superbe artiste très engagé pour faire notre livre. Plusieurs des images que vous allez voir ce soir sont reprises dans notre livre. Cette image, je trouve, est splendide. La réplique également l'est. Chaque geste compte, nous dit-on tout le temps. Acheter, c'est voter, disait Laure Varidel. Oui, ben encore faut-il avoir l'argent d'acheter, hein? Fait que l'argent de voter. Mais chaque geste compte, et on va le voir, il y a des gestes qui comptent beaucoup plus que d'autres. Prochaine image. Qu'en est-il du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, nous sommes déjà dedans, il n'est pas minuit moins 5, il est minuit 2. La question, c'est de savoir combien on va être capable de le limiter. Et cette lutte-là, elle va durer les 50 prochaines années, si ce n'est pas plus. Okay? Mais évidemment, la décennie qui vient est la plus importante. Le réchauffement climatique, il a déjà en grande partie eu lieu, c'est-à-dire que les causes profondes ont déjà eu lieu. Le réchauffement qu'on subit aujourd'hui, c'est des gaz à effet de serre qui ont été émis sur les 200 dernières années. Puis en fait, il y a toujours un petit décalage d'une dizaine d'années. Donc, les gaz à effet de serre qu'on émet aujourd'hui... que certains émettent aujourd'hui, dans certaines circonstances, vont avoir des effets à partir de, disons, dans les 10 prochaines années, on va mesurer ces effets-là. Donc, on est déjà ailleurs. Ça, c'est un grave constat, mais vous allez voir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, tout est à faire. Et la première chose, c'est de ne pas se perdre sur les causes profondes de la crise climatique. On sait, c'est bien documenté maintenant, depuis 200 ans, depuis à peu près l'avènement de la révolution industrielle, 90 entreprises concentrent presque les deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. 90. On est 60 dans cette classe, peut-être dans cette salle. Rajoutez 30 personnes, puis voilà. C'est rien. C'est rien, évidemment, c'est rien parce que c'est en nombre, mais évidemment, ce sont des entreprises immenses. Des cimenteries, certes, mais les plus grosses, ce sont essentiellement les entreprises du pétrole, du gaz et du charbon. À elles seules, par leur extraction, le déplacement, le raffinage et les carburants qu'ils jettent sur le marché pour qu'ils soient brûlés, parce qu'il n'y a pas vraiment d'eau d'usage, à part un petit peu de plastique et un petit peu d'engrais, viennent principalement de ces 83 entreprises. Il y a une étude très importante qui a été faite sur cette question-là, qui recense ces données-là. Donc, on se retrouve avec des entreprises comme, par exemple, Chevron, qui a plus émis de gaz à effet de serre que la France, qu'un pays comme la France, ou qu'un continent comme l'Afrique. On parle d'une seule grande corporation. Évidemment, ce n'est pas une petite corporation, c'est une méga corporation, fait partie des sept sœurs historiques du Big Oil américain. Bon, certes. Mais il est temps qu'on se débarrasse de la culpabilité individuelle de mon petit geste quotidien. Certes, vous pouvez faire votre recyclage chez vous, votre compost, essayer de prendre le vélo si vous êtes capable. Allez-y. Mais vous savez, si on ne change rien à ces entreprises-là, vous pouvez tout faire, le zéro déchet que vous pouvez consacrer toute votre vie à faire du zéro déchet, ça ne changera absolument rien. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Et d'abord et avant tout, ce sur quoi je vais insister tout au long d'aujourd'hui du cours, c'est qu'il nous faut viser l'industrie fossile. Deuxième image, pour vous donner une idée, on présente souvent les statistiques on présente souvent les statistiques des émissions d'un pays. Et après, souvent, on fait on fait des abstractions statistiques en faisant en divisant les émissions par capita, c'est-à-dire par nombre d'habitants. Le problème de ce genre de statistiques qui sont perpétuellement répétées dans les médias et dans le débat public, c'est que c'est comme si les individus étaient individuellement responsables de ces émissions-là. Chacun et chacune d'entre nous. Et ça tombe mal, hein, parce qu'au Canada, on est dans les pires dans le monde. Émissions par capita, on est au top numéro 1. Pourquoi? On est un pays extractiviste. Hein? Le Canada, c'est quoi? C'est un train pour la fourrure, puis le pétrole, le pétrole, puis le gaz. Il n'y a à peu près rien d'autre qui nous unit au Canada.
Tim Hortons.
Hein?
Tim Hortons.
Tim Hortons, oui, aussi. Ouais. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on décompose pour un pays comme le Canada? Cette personne-là, moi, où est-ce que je me trouve là-dedans? Regardez. La part des émissions par secteur. Donc ici, le plus gros, c'est pétrole, transport des marchandises, industrie lourde, bâtiment industriel. Est-ce que j'ai jamais été consulté sur une seule de ces décisions-là? Est-ce que vous avez déjà été consulté sur une seule de ces décisions-là? Absolument. À la limite, transport des passagers, oui, c'est un gros enjeu, en particulier au Québec. On y reviendra peut-être si ça vous intéresse. Agriculture, il y a beaucoup de choses qu'on décide pas là-dedans non plus. Transport des passagers, on pourrait même en discuter aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait le désir pour les VUS, pas tant un désir naturel, mais un désir qui a été savamment entretenu et produit, et donc on pourrait en discuter également. Électricité, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, c'est les grandes entreprises d'électricité qui décident, c'est principalement le charbon, certaines centrales au charbon. Déchets là-dedans, 7%, alors c'est important. Mais si vous décomposez là-dedans, à peu près 90%, c'est les commerces, les entreprises. À peu près, ça me permet de faire un aparté sur le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est super si vous avez le temps, puis si vous ne sous-traitez pas ça à votre conjoint. C'est une vraie question. Mais aussi, le zéro déchet, ça touche moins de 10% de tous les déchets qui sont produits dans le monde. Donc, en gros, là, avant que vous commenciez à acheter quelque chose, il y a déjà 90% des déchets qui ont été faits. Fait que votre action du zéro déchet, il peut toucher au mieux peut-être 10% des déchets qui existent. Le reste, fait qu'il reste quoi? Résidence, éventuellement. Peut-être lié à du chauffage ou du chauffage au gaz ou au mazout ou autre. Bref, la responsabilité individuelle ici, il faut la relativiser. Oups, ça c'est l'image qui s'est... je vous avais averti, il y avait peut-être des petits... C'est pas très grave, j'ai pas écrit grand-chose. J'ai écrit « La tendance a été coupée », là. J'ai mis une petite image de Clément de Gaujac. Excusez-moi, c'est mes talents de PowerPoint sont vraiment les gens. Bon. La tendance à la surproduction. Venons-en à un autre problème. L'autre problème, c'est celui de dire « Oh, mais les individus, dans le fond, ils n'arrêtent pas de consommer, ils n'arrêtent pas d'acheter plein d'affaires. Mon voisin s'est acheté un VUS, une nouvelle télé, il a garoché son autre télé, il n'arrête pas. Mon Dieu, qu'il fait des gestes, il est donc bien irresponsable. » Vous imaginez bien que si vous commencez à discuter avec lui dans ces termes-là, ça risque d'être un petit peu conflictuel. Ce qu'on essaye de faire dans notre ouvrage, c'est de dire, ben, les gens qui sont pris dans la consommation de masse, on doit être en mesure d'une façon ou d'une autre de les rejoindre et de commencer à discuter de véritables questions et d'arrêter de poser des jugements moraux trop faciles sur la consommation d'un tel ou d'un tel. Pourquoi? Ben, d'abord et avant tout, la surconsommation, c'est d'abord une conséquence de la surproduction. On s'en est parlé au début lorsqu'on a défini un petit peu le capitalisme. Dans le capitalisme, il y a une loi qui est cachée par cette image-là. Il y avait écrit « croître ou mourir ». Dans le capitalisme, la loi des reins, c'est « croître ou mourir ». Si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas tout simplement faire vos affaires, puis obtenir votre petit revenu et vous fermer sur votre petite entreprise et décider d'en arrêter là. Si vous arrêtez là, soit vous n'êtes pas un lieu où il y a beaucoup de profit à faire, puis les grandes corporations vont vous laisser faire parce que ce n'est pas très grave, soit c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de compétition dans votre milieu. Bon. Donc, l'essentiel, en fait, pour la plupart des entreprises, c'est qu'elles ne peuvent pas survivre seulement sur une base de reproduction sans croître. Elles sont poussées à la croissance par la concurrence du marché. Pour être en mesure de conserver leur part de marché, elles doivent évidemment, je vous l'ai dit, tendre à baisser leurs coûts de production pour être en mesure de faire la compétition sur les prix et de pouvoir gagner des parts de marché sur leurs concurrents. Les entreprises en concurrence les unes avec les autres se mettent donc à produire de manière, désordonnée. Hein. Il n'y a pas de coordination dans le marché, il n'y a pas d'entente entre les entreprises, quoi qu'il y en a aussi, ça c'est un autre problème, il y a des oligopoles qui prennent des décisions, qui prennent des ententes. Mais en général, la caractéristique du marché capitaliste, c'est qu'il n'y a pas de coordination. Chacun fait ses petites affaires, puis on regardera ce qui va se passer. Ben, ce qui va se passer, c'est que si tout le monde cherche à faire des économies d'échelle et à produire le plus possible qu'ils sont capables, ben, on va se retrouver avec une crise de surproduction. C'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire que les entreprises cherchent à économiser leur coût de production, se mettent à produire énormément pour diminuer le coût de chacune des marchandises. Elles sont prêtes même à ce qu'il y ait davantage de marchandises qui restent sur les tablettes. Elles préfèrent avoir des marchandises sur les tablettes ou en backstore que de perdre des consommateurs. Et donc, pour ça, il faut être sûr d'avoir toujours le maximum qui est possible. Par exemple, dans l'industrie de l'acier, on sait que l'industrie de l'acier, bon là, avant la COVID, là, c'est des données d'avant la COVID, mais l'industrie de l'acier fonctionnait à 70%. Ils gardent toujours une marge de manœuvre. Ils gardent toujours une marge de manœuvre au cas où il y a une demande, ils puissent tout de suite accélérer puis augmenter la cadence. Fait qu'ils s'assurent toujours de pouvoir croître rapidement et de pouvoir écouler rapidement les marchandises qu'ils ont à produire. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop de marchandises? Ben, à un moment donné, il y a des limites. Évidemment, la première chose à faire quand on a trop de marchandises, c'est évidemment de s'assurer de les vendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence symbolique ou tout simplement ce qu'on dit plus dans le langage vernaculaire, la publicité, tout simplement. La publicité joue un rôle crucial pour les entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise qui fait des investissements en se disant « Ouais, on va voir si ça marche. On va investir là-dedans, on va produire des marchandises, puis on va voir si ça marche. » Il n'y a pas un seul entrepreneur sérieux qui va opérer comme ça. Les entreprises s'assurent de pouvoir écouler leurs marchandises et pour ça, elles s'assurent de tous les moyens marketing et publicitaires qu'ils peuvent avoir pour être en mesure d'écouler leurs marchandises. évidemment toutes sortes de choses qu'on fait. On a inventé le suremballage de plastique parce que c'est plus sexy, une petite ceinture dans un emballage ou une petite tomate dans un emballage, hein, elle shine comme ça, donc ça marche. Ça a l'air que ça marche. Bon, on a inventé le suremballage pour ça. On s'assure d'avoir de l'espace dans les étalages pour être sûr que la concurrence n'en est pas. On s'assure en amont qu'on tasse la concurrence. On crée des produits dont on est sûr que les gens vont être obligés d'acheter parce qu'il y a des effets de monopole. On en a parlé tout à l'heure avec Apple. Je reviendrai sur Apple, mais Apple est un exemple fascinant de comment on crée une marque qui donne l'impression à tout le monde qu'il n'y a pas de Mac, qu'ils sont à côté de la plaque. L'ordinateur, c'est ça. Le reste, ce n'est pas vraiment des ordinateurs. On crée des marques aussi qui sont liées à qui deviennent des objets naturalisés. Là. On parle de frigidaire. On parle de marque. On parle d'un Scott Towel. C'est comme naturel, hein. C'est pas du papier pour essuyer, non. C'est du Scott Towel. C'est une différence. On crée des effets de monopole pour s'assurer de pouvoir écouler notre marchandise. Après, il y a évidemment des fois trop de marchandises, comme chez Amazon. Amazon, c'est des immenses entrepôts. Tout le monde veut vendre par Amazon. À un moment donné, les marchandises s'accumulent. Les entreprises ne veulent plus payer pour le stockage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Ils détruisent des télés, ils détruisent des vêtements, ils détruisent des jouets. Ça a été documenté par un documentaire français là-dessus. H&M également. H&M qui est super vert. La compagnie suédoise, qu'est-ce qu'elle a fait récemment? Surplus de vêtements, évidemment. Quand c'est la mode, on produit en plus possible. Évidemment, la mode change. Et c'est dommage, hein, la mode change beaucoup plus rapidement que les gens sont capables de la consommer. On se retrouve avec trop de vêtements. Qu'est-ce qu'on va faire? H&M a eu une superbe idée. Ils se sont dit, « Hey, on va appeler la compagnie d'électricité qui produit de l'électricité avec du charbon. On va lui dire, « Hey, nous, là, on a un projet super vert. On va te donner des vêtements à brûler. » Ils ont dit, on va remplacer le charbon par des vêtements, on va produire l'électricité, et en plus, on va avoir des crédits carbone avec ça. Yeah! Après ça, bon. Moi, je les aurais bien pris, les vêtements, genre. S'ils m'avaient appelé, bon, peut-être qu'il y en aurait eu beaucoup, hein, peut-être beaucoup trop, là. Mais peut-être à la gang, on aurait pu séparer ça. Bon. Toutes sortes de stratégies, parce qu'évidemment, si vous vous mettez à donner ce que vous avez surproduit, bien là, vous menacez la valeur des marchandises de toutes les autres que vous avez en magasin. Et ça, c'est un grave problème. Dernière chose, évidemment, peut-être que vous la connaissez, ça commence à être de plus en plus débattu. Stratégie d'entreprise commence à être de plus en plus décriée. L'obsolescence programmée. Pour être sûr de vendre le plus de marchandises, bien... La meilleure façon de faire, c'est d'être sûr qu'on soit obligé d'en racheter. Comment on fait ça? Ben, on sabote délibérément la qualité des produits. C'est une pratique qui est documentée depuis le début du 20e siècle. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a des exemples innombrables de gris de pain, bonilon, ampoule est très connue. L'ampoule, bon, les exemples sont innombrables. Donc, pour ce qui est de l'obsolescence programmée, on va sauter à la prochaine. Deux autres exemples. Apple est un champion de l'obsolescence programmée. Ils ont d'ailleurs été condamnés deux fois aux États-Unis pour des batteries du iPod qui pétaient au bout d'une année. L'autre fois, c'est juste des fois un changement de logiciel. Changement d'environnement, le téléphone ne fonctionne plus ou ralentit volontairement pour être sûr que vous achetiez un nouveau téléphone. Dernière en date, Windows 11, que j'attends impatiemment. Windows 11, pour ceux et celles qui n'êtes pas au courant, si votre ordinateur a plus de 5 ans, bye bye, vous allez devoir le remplacer. Windows 11 par son logiciel va forcer à ce que, si vous voulez être à jour sur les mises à jour de, Office, que finalement tout le monde utilise parce que c'est devenu comme naturel, ben à un moment donné, vous allez frapper un mur, puis vous allez devoir remplacer votre ordinateur avant même qu'il ait perdu sa valeur d'usage, c'est-à-dire avant même qu'il soit encore valable. Bon, il y a des solutions à ça, vous les connaissez peut-être, les logiciels libres, tout ça, ça peut être une voie. Mais vous le comprenez, le problème avec l'obsolescence programmée, c'est que vous pouvez bien faire tous les efforts que vous voulez pour consommer moins, à un moment donné, vous allez être forcé de consommer plus. Parce qu'on va vous forcer à remplacer votre cellulaire, on va vous forcer à remplacer votre ordinateur, on va vous forcer à remplacer votre voiture, tout ça parce qu'il manque une petite pièce par-ci, on change de logiciel par-là, ou il y a une défaillance qui a été savamment entretenue dans le produit. Tout ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est pour vendre davantage de produits. Dernier mot là-dessus, avant de passer à autre chose, dernier mot là-dessus. Comment vaincre l'obsolescence programmée? C'est une vaste question. En France, ils ont voté une loi contre l'obsolescence programmée. C'est difficile, par contre, d'aller devant des tribunaux pour dire une entreprise a délibérément saboté la qualité des produits. C'est difficile parce qu'évidemment, une entreprise, c'est fermé. C'est pas public. Hein, la formation est fermée, il y a un secret industriel, tout ça, qui est savamment entretenu. Donc, c'est très difficile. Et pour l'instant, ce sont les consommateurs qui ont le fardeau de la preuve, encore une fois. Une des idées qui circulent, qui par contre pourrait avoir des effets majeurs de restructuration économique, c'est éventuellement de penser à défendre une idée de garantie minimale 10 ans sur tous les produits. C'est une idée qui commence à circuler en France. Donc, ça serait de dire les entreprises ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits durent minimalement 10 ans. Après, on pourrait débattre dans les détails sur le genre de produit, mais minimalement 10 ans. Sinon, c'est du pur gaspillage. Évidemment, ça aussi aurait potentiellement un effet positif d'entretenir une économie locale de réparation plutôt que d'une économie du jetable qui envoie à l'international à la fois les déchets électroniques et la production. Donc, par contre, vous en doutez bien, la conclusion de cette idée-là, c'est que si on veut imposer une garantie minimale 10 ans, doutez bien que les entreprises ne vont pas trouver ça très intéressant d'un point de vue financier. Et donc là, on rentre dans le cœur de notre perspective. Si on comprend bien les idées qu'on veut mettre en place, comme la garantie 10 ans, par exemple, sur les produits qui semblent être juste une question de base, de durabilité de nos objets qu'on utilise tous les jours, ben on se rend compte qu'on doit faire face à d'immenses pouvoirs et il faut confronter ces pouvoirs-là. Et ça, souvent, c'est rentrer directement en contradiction avec des piliers du système économique capitaliste. En particulier, la question de la propriété privée. Les entreprises, c'est leur propriété privée de savoir comment elles produisent, dans quelles conditions, quels sont les produits, quelle sont la qualité des produits. Si on se met à jouer là-dedans, elles ne vont pas être contentes. Et pour ça, il va y avoir un conflit. Et en fait, le conflit, il est déjà ouvert. Prochaine question, on avance vite. On a fait un input sur la question de la surproduction. Vous allez voir qu'on va aller dans le même sens. Est-ce que le capitalisme peut devenir vert? On se dit, bon, OK, il y a de la surproduction. Oh, il y a de mauvaises entreprises, des pommes pourries, là, qui polluent, qui jettent leurs produits. Bon. Mais il y a quand même des bonnes entreprises, là. Il y a des bonnes entreprises qui font, des voitures électriques, des éoliennes, peut-être, des panneaux solaires, n'importe. Il y en a des entreprises, puis c'est pas... elles sont pas dans des pays socialistes ou... Bon, ce sont des entreprises capitalistes, puis qui ont adopté des chartes de valeurs, des chartes vertes, qui ont des... Bon. Fait que pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une tendance qui est en train de se développer? On peut voir en Grande-Bretagne, la transition énergétique est enclenchée, en Allemagne aussi. Bon. Pourquoi il n'y a pas d'espoir là-dedans? Pourquoi? Le problème, c'est évidemment la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment continuer à produire de la valeur monétaire sans détruire les écosystèmes? La question, elle n'est pas théorique, mais elle est pratique. C'est ce qu'on appelle la question du découplage. On peut présenter le graphique suivant. Ce qu'on appelle le découplage, c'est un terme technique on a décidé de produire un graphique pour l'exprimer en une image. Le découplage, c'est quoi? Hein, c'est ce qu'on nous vante tant dans la perspective du développement durable, la croissance propre, la croissance verte. Tout ce langage-là, marketing, en fait, sert à camoufler quelque chose qui n'existe tout simplement pas. C'est quoi le découplage? Ben, c'est globalement, disons, c'est un terme statistique hein, pour dire qu'il va y avoir une séparation entre deux variables. Deux variables qui est la croissance économique, ici en termes d'argent, de PIB, et une autre variable qui serait les dégâts écologiques en général. On pourrait entendre ici utilisation des ressources aussi, pollution. L'idéal du développement durable, l'idéal de la croissance verte, l'idéal du capitalisme vert, c'est ça. Une croissance qui continue perpétuellement à l'infini avec une courbe qui descend. C'est-à-dire qu'à chaque dollar qu'on produirait, ben, on verdirait le monde. Ça serait de mieux en mieux. Ça serait juste splendide. On utiliserait à chaque dollar, j'ai plus d'argent, puis en plus, j'ai plus d'air frais, plus d'arbres, plus de ressources. C'est magnifique. Ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, on n'a jamais vu ça. Et en fait, c'est tout à fait improbable. Qu'est-ce qu'on observe empiriquement dans les pays où on a pu étudier cette question-là? C'est qu'au mieux, ce qu'on a, c'est un découplage relatif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un écart entre les deux, mais la courbe ici là, de pollution, d'utilisation des ressources, elle continue toujours à monter. Peut-être qu'elle augmente moins vite que le PIB. C'est souvent ce qui se passe dans les pays occidentaux. Mais elle augmente pareil. Et vous savez pourquoi? En général, c'est pas parce qu'on fait mieux, c'est parce qu'on a tout simplement délocalisé la pollution en Chine ou en Asie du Sud-Est. Ce découplage-là, dans un pays en particulier, c'est une illusion statistique. Parce qu'à l'échelle de la planète, ça n'existe pas. Donc, imaginez un découplage qui soit celui de plus je produis d'argent, moins je prends de ressources, moins je pollue. Absolument improbable. Les seules fois où ça s'est passé, où on a eu une descente énergétique, une descente en termes de ressources, c'est des crises économiques. Et donc, il y a un lien très très clair entre la question de l'accumulation de l'argent, de l'accumulation monétaire d'une société et les ressources et la pollution que l'on produit. Évidemment, ça pose la grave question, ben, il faut sortir de cet objectif-là absolu qui est celui de dégager de la croissance économique, dégager plus d'accumulation monétaire. Le problème, c'est quoi? Ben, la croissance économique, c'est l'effet, en fait, de la dynamique de concurrence des entreprises capitalistes entre elles, qui cherchent à accumuler. Accumuler, c'est quoi? C'est produire du profit, prendre les profits, les réinvestir pour agrandir encore la production, dégager davantage de profits, etc., etc., à la vie. La croissance économique, c'est ça. C'est l'effet combiné de toutes ces entreprises qui, chacune d'entre elles, veut croître le plus rapidement possible et veut devenir de plus en plus gros. Si on veut se débarrasser de cet objectif-là, bien évidemment, il faut remettre en question ce qui est au fondement même de l'organisation économique du système, à la fois la dépendance systématique au marché, puis la question de la propriété. La suite, là, j'ai comme un blanc... Ah oui! Bon, il y a toutes sortes de données qu'on aurait pu montrer sur la question du découplage ou des ressources. Ici, vous avez des données qui sont tirées de ce qu'on appelle la grande accélération... Donc, en termes de ressources et de pollution, ce qui s'est passé des deux derniers siècles, on parle souvent du CO2, mais il y a bien d'autres... Donc, vous voyez dioxyde de carbone à gauche, mais on a aussi la question de l'azote, le méthane, l'acidification des océans, l'usage des terres. Tout ça est en croissance majeure et qui va bien dans le sens de montrer que, globalement, à l'échelle de la planète, il n'y a pas de découplage entre la croissance économique, l'accumulation du capital et les dégâts écologiques et les ressources qu'on exploite. Pourquoi le découplage est impossible? Rapidement là-dessus, d'une part, il y a des effets rebonds. On en parle souvent. Souvent, on parle des effets rebonds. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept-là, mais on parle souvent des effets rebonds individuels. Par exemple, on va dire, Bon, ben, si ce qu'on observe parfois, c'est quelqu'un qui va, par exemple, s'acheter une voiture qui consomme moins d'essence, va remplacer une voiture qui polluait plus par une voiture qui pollue moins. Mais l'effet que ça va avoir, c'est qu'elle va sentir que, finalement, ben, vu qu'elle pollue moins, elle peut utiliser plus sa voiture. Fait que l'effet global, ça va être soit autant de pollution, soit plus. Fait qu'on fait juste déplacer le problème en changeant, de consommation. Bon. Mais ce qu'on dit souvent dans les effets rebonds, c'est souvent une perspective individualiste ou individuelle. Alors, les individus, ils font finalement de mauvais choix, ils prennent des ampoules éco-énergétiques, puis avec l'argent qu'ils ont économisé, ils s'achètent un billet d'avion. Ouais, pas très écolo, tout ça. Bon. Certes, peut-être. Mais les effets rebonds les plus importants, ce sont des effets rebonds qui sont structurels, qui sont liés, encore une fois, aux grandes entreprises. Je vous donne un seul exemple. Walmart. Walmart, un jour, s'est vanté au début des années 2000 d'utiliser des ampoules éco-énergétiques, avoir des camions qui consommaient moins d'essence. Super! Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Pour une entreprise, des économies de ressources et d'énergie, ça représente évidemment des économies de coûts de production. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces économies de coûts de production? Ils ont produit plus. Ils ont ouvert d'autres magasins. Ils se sont étendus. L'effet global, ça a été quoi? Ils ont émis plus de gaz à effet de serre qu'auparavant. Des effets rebonds structurels, il y en a à peu près dans tous les secteurs. Et ça, ben, c'est lié à la dynamique même de compétition du marché pour être sûr de croître. Parce que sinon, on se fait racheter par la concurrence ou on fait faillite. Le découplage aussi repose sur une autre illusion, celle du nuage. Hein, celle qui nous fait penser que le cloud, là, qui est partout maintenant, que finalement le numérique serait la solution à tous nos problèmes. Qu'avant, les gens, ils faisaient n'importe quoi, ils imprimaient tout... puis maintenant, avec les ordinateurs, les bases de données, c'est superbe. Tout ça, c'est clean, clean, clean. C'est propre, propre, propre. Mais en fait, ce qu'il y a de propre, évidemment, c'est la surface de votre ordinateur. Mais vous savez, j'espère, derrière votre ordinateur, il y a une immense infrastructure industrielle. Le cloud pèse très, très lourd, pour dire les choses franchement. Un téléphone cellulaire de 150 grammes, c'est derrière, c'est 150 kilos minimum de minéraux. Et après ça, c'est sans parler... aussi la question de l'exploitation des enfants au Congo, et tout ça. Non, je ferme la parenthèse, on irait trop loin. Bon, juste ça, juste en termes de matériaux. Le cloud, c'est évidemment aussi des bases de données, des immenses data centers qui sont pas toujours dans des pays qui sont alimentés avec des énergies renouvelables. Encore, la majorité de l'électricité à travers le monde est produite à partir de charbon. Donc le cloud, c'est beaucoup aussi de charbon. Les bitcoins sont une folie pour cette question-là. La consommation de vidéos sur Internet, c'est une folie pour cette question-là. Le nuage, qui est un peu souvent la représentation qu'on se fait du découplage, on se dit « Ah, mais aujourd'hui, c'est super, on est une économie de services. On n'a plus d'impact matériel, d'empreinte écologique. On a juste des surfaces, des petits écrans, des ordinateurs, puis voilà, c'est super. Puis on a des services, on offre des services. » Mais derrière tous ces services-là, il y a toute une infrastructure matérielle. Il y a des satellites, des câbles sous-marins, il y a des centrales au charbon, il y a des minerais, bon, tout ça a un poids matériel très, très fort. Et on ne s'est pas débarrassé de ces principales, impacts écologiques. Il ne faut pas l'oublier. Dernière chose sur le découplage, c'est les limites du recyclage. Le recyclage, je vous invite à le faire, mais sans culpabilité, s'il vous plaît. Consacrez votre haine pas à vous frapper vous-même, mais à ceux et celles qui ont vraiment du pouvoir sur les choses pour canaliser vos énergies. Le recyclage, il a des limites absolues. D'une part, bon, on pourrait discuter, il y a plein de problèmes de recyclage parce qu'il y a bien des choses pour recycler et vont se ramasser au vidange de toute façon. Ils sont liés à des dynamiques de marché aussi. Ça dépend du prix. Si ton prix du papier recyclé est plus bas, ben, peut-être ça ne vaut pas la peine de le recycler. Bon. Ça, c'est des dynamiques de prix, déjà des problèmes. Mais après, il y a des limites absolues au recyclage. On ne peut pas recycler 100% des choses que l'on met au bac de recyclage. Une bouteille, par exemple, et souvent, il y a des illusions, hein, les entreprises vont écrire 100% recyclé. J'en doute fort. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment du contrôle sur ce genre d'argument-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une bouteille de plastique recyclé? Faire des vêtements. des vêtements synthétiques. On peut recycler peut-être 3-4 fois une bouteille, mais à un moment donné, il y a des limites. La fibre de plastique se défait, on ne peut plus rien faire. Le papier, c'est la même chose, peut-être 6-7 fois le même cycle, le même papier, il y a des limites. Il y a des limites qui sont liées à des lois de la physique, à des lois de la composition de la matière. C'est des limites dont on ne peut pas se débarrasser. C'est finalement des limites absolues qui sont celles aussi de notre condition humaine d'être de chair sur une planète Terre avec des lois physiques et biologiques et chimiques qui nous dépassent. Évidemment, je parle même pas, pour faire un dernier aparté sur le recyclage, du recyclage de tout ce qui est appareils électroniques. Les téléphones cellulaires, je ne sais pas si vous connaissez le Fairphone, une compagnie qui s'est lancée dans l'idée, on va faire un téléphone équitable. J'en doute, là, mais je n'ai pas vérifié moi-même. Bon, prétendre que c'est plus équitable, tout ça. Il y a des choses intéressantes, parce que c'est vrai qu'il semblerait que c'est plus facile à réparer et plus modulable. Bon. Disons que c'est le téléphone le plus éthique sur le marché en ce moment. Il y a 30% des pièces qui peuvent être recyclées. 30%. Tout le reste, on ne peut rien faire. C'est le... Et ce téléphone-là, évidemment, il doit y avoir à peu près 3-4 personnes qui l'ont. Là. C'est évidemment pas lui qui domine sur le marché. Le problème du recyclage, c'est aussi un problème lié... c'est un vaste problème pour l'électronique. Parce que plus on miniaturise, plus c'est difficile de séparer les métaux entre eux et de les recycler. Donc, c'est aussi ça la contrepartie. On aime ça, les surfaces, les petites affaires, tout ça. Il y a des limites aussi à ça. Peut-être qu'il va falloir accepter que c'est peut-être pas un objectif absolu de toujours miniaturiser. Si on ne peut pas remplacer les pièces, si on ne peut pas les recycler, peut-être qu'il faudrait prendre d'autres décisions de production. Évidemment, prendre d'autres décisions de production, ça implique de peut-être avoir un pouvoir sur ces décisions de production. Et pour l'instant, la majorité de l'humanité, on n'a pas de pouvoir sur ces décisions de production. Le temps file. Dernier point que je voudrais aborder avec vous. On se donne peut-être... on a commencé un petit peu en retard. J'espère que je ne vous ai pas assommé jusqu'à maintenant. Bon. Disons que... OK. C'est peut-être pas possible qu'on soit super vert, puis que tout soit écolo, puis qu'on puisse faire pousser des arbres partout, puis qu'on ne peut pas, peut-être pas créer toujours la richesse en tout recyclant. Mais bon, au moins... Est-ce qu'on pourrait pas, juste au moins, on pourrait garder le capitalisme, parce que ça, c'est difficile à s'en débarrasser, mais juste enlever les hydrocarbures, ça, juste ça. Ça pourrait tenir, tu sais, parce que finalement, bon, là, on ne veut pas tout changer quand même en même temps. Mais le problème, c'est que ça risque d'être difficile. Le premier problème, c'est celui des énergies renouvelables. Aujourd'hui, tout le monde en parle des énergies renouvelables. Ah, oh, c'est super! Ah, regardez! Il y a des panneaux solaires qui se construisent là, des éoliennes là. Wow! Il y a plein d'investissements. Ben, laissez-moi vous dire que la courbe est haute. La courbe est haute. Énergie renouvelable, c'est le petit bout là. Ça, c'est la trajectoire de l'accumulation de l'énergie, de la consommation d'énergie primaire par source. On a essentiellement, ça c'est du bois, d'autres choses, du charbon, du pétrole, du gaz, un petit peu de nucléaire, trop, vent solaire, ces petites traînées. C'est quoi cette dynamique-là, des 200 dernières années? C'est pas une dynamique de transition énergétique. Il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire du capitalisme. Il y a toujours eu des dynamiques d'accumulation ou d'empilement. Vous voyez ici, là, on pensait souvent, ah, oh, le charbon, là, c'est une vieille affaire du 19e siècle. Le pétrole, c'est le 20e siècle. Oubliez ça. Il n'y a pas de 20e siècle sans charbon. Il n'y a pas de 20e siècle sans charbon. Le pétrole, certes, a commencé à dépasser vers un peu plus tard que à jouer un rôle, disons, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le charbon est resté très, très présent. Il reste encore extrêmement présent. 80% de l'électricité, à peu près, dans le monde, est produit encore à base de charbon. Bon, fait qu'on fait quoi? C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que à chaque nouvelle source d'énergie, on n'en remplace pas une autre, on fait juste l'empiler. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables qu'on développe en ce moment ne nous aident pas à sortir des hydrocarbures. Elles n'aident seulement qu'à combler la croissance de la demande énergétique globale, qui est surtout liée évidemment à la croissance de la demande des entreprises pour produire plus. Fait que si on fait juste développer des énergies renouvelables, ben, on va juste se retrouver à augmenter cette courbe-là. Mais tout ça, on va le voir bientôt, tout ça, tout ce qu'il faut amener à zéro, ben, on n'y touchera pas. Premier problème, empilement. Deuxième problème, l'intermittence. Le vent ne souffle pas toujours, le soleil pas toujours là. Ça crée de la variation. Résultat global, j'insiste sur deux autres affaires, deux autres limites. La densité, il faut beaucoup d'espace pour des énergies renouvelables. L'avantage des énergies, des hydrocarbures, il faut le reconnaître, c'est que c'était des énergies de sous-sol, des énergies qu'on allait puiser dans le sous-sol. On n'avait pas besoin d'abattre des forêts ou de consacrer toutes nos surfaces agricoles pour faire de l'énergie. Le problème avec les énergies renouvelables, c'est qu'on va avoir besoin de surface. On va avoir besoin de surface pour les panneaux solaires, pour les éoliennes. On va avoir besoin de surface aussi pour les biocarburants, parce que ça se fait sur des terres agricoles. Et ces surfaces-là, ben, elles ne sont pas illimitées. Un pays, par exemple, comme le Japon, s'il veut être alimenté à 100% d'énergie renouvelable, doit consacrer toutes ses terres à ça. Et en fait, doit même aller en chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'il doit consacrer toutes ses terres agricoles, La plupart des pays d'Europe aussi, c'est le même problème. S'ils veulent avoir la même consommation d'énergie, c'est ça le problème. Autre problème, c'est qu'il y a ça aussi, c'est la question du rendement. Le rendement énergétique des énergies renouvelables, même s'il tend à augmenter, est encore très faible, du moins par rapport au charbon. Le rendement énergétique, je vais rapidement, mais c'est un calcul qui a une certaine abstraction, mais ça nous donne certains indices. C'est de se demander ben, combien il nous faut d'unités combien on obtient d'unités d'énergie lorsque on investit une unité, on consomme une unité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Combien on a besoin de brûler de pétrole dans des machines qui vont extraire du charbon et combien ça va nous rapporter d'énergie? Évidemment, il faut que l'apport soit positif, sinon on va consommer plus d'énergie à aller chercher moins d'énergie que ce que ça nous enlève. Comprenez l'idée? Je vais vite. Hein? Le charbon, ça tombe bien, c'est positif. Disons, selon certains calculs. Là, évidemment, les méthodologies, des fois, diffèrent, mais en général, c'est positif. Les panneaux solaires, donc on est capable d'aller chercher, en investissant une unité d'énergie, on est capable d'aller en chercher 60. Au mieux, les panneaux solaires, récemment, on dit, peut-être 23, 24. Pétrole et gaz, ça a beaucoup diminué. En Arabie Saoudite, ça peut être autour de 100. Le pire, c'est l'Alberta. Trop calme. L'Alberta, là, c'est du pur gaspillage. On a besoin de brûler un baril de pétrole pour en extraire 3 ou 4. Ça, c'est à peu près le rendement énergétique des sociétés de la sortie du Moyen-Âge. les éoliennes, évidemment, sont à peu près au même niveau en ce moment que le pétrole et le gaz. L'éthanol, c'est le pire. Il faut souvent beaucoup plus d'énergie pour produire des biocarburants que ce que ça nous rapporte réellement. C'est du pur gaspillage. La seule façon qu'on ait de l'éthanol, c'est qu'il soit subventionné par du pétrole. C'est juste utiliser le rendement énergétique supérieur du pétrole pour alimenter de l'éthanol. Mais sinon, il n'y a pas moyen d'en faire avec un bon rendement. Et évidemment, les énergies renouvelables, on revient à la question des ressources. N'importe quelle source énergétique, les énergies renouvelables, d'ailleurs, c'est un peu une abstraction, parce que l'éolienne elle-même n'est pas renouvelable, le panneau solaire lui-même n'est pas renouvelable. Ils ont une durée de vie qui repose sur des matériaux qui sont aussi rares et qu'on doit essayer de recycler, ne sont pas toutes recyclables et dont les ressources sur lesquelles ils reposent sont rares. Les ressources aussi, elles se trouvent où? Ben, souvent sur des terres autochtones, conflits, ou dans des pays du sud global, qui va avec donc, des dynamiques coloniales. Disons, c'est un grave problème. Et je vous l'ai dit aussi, la question de l'espace, c'est le prochain grand conflit. la question de l'espace consacré aux énergies renouvelables, ça va être le prochain grand conflit. C'est-à-dire qu'on risque de transformer le conflit du climat vers un conflit territorial sur la production énergétique pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, puis au Québec aussi, pour l'hydroélectricité. Autre problème, il n'y a pas de substitut réel en ce moment sur le marché pour le pétrole. Le pétrole joue un rôle central, évidemment, pour la machinerie, mais surtout pour le transport des marchandises et des personnes. Actuellement, il n'y a pas de substitut réel. C'est-à-dire que oui, on parle de l'hydrogène, on parle un petit peu des biocarburants, on parle des batteries électriques. Toutes ces solutions-là, déjà, ne sont pas produites de manière massive et peuvent jouer un rôle très, très limité. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus. Un exemple de gaspillage. La Tesla T, je pense, c'est ça, ou le plus gros modèle de Tesla, genre Tesla VUS, superbe, hein? Il peut faire 600 km avec ça, le top de ce que vous pouvez trouver sur le marché. Évidemment, si vous en avez les moyens, si vous avez les moyens d'être écolo. Cette voiture-là, vous savez combien pèse la batterie? La voiture pèse à peu près 2,5 tonnes. La batterie, 600 kg. C'est à peu près là. C'est le problème des batteries, c'est que ça pèse énormément. Fait que vous imaginez une batterie de 600 kg pour transporter à peu près une personne de 50, 60, peut-être 70 kg. Ou deux. Le rendement est quand même douteux. En plus de tous les autres problèmes. Mais vous comprenez que si vous essayez de mettre une batterie dans un avion, forget it. La puissance, la consommation de carburant, l'énergie que a besoin un avion ne peut pas se faire avec une batterie. Puis c'est la même chose pour les bateaux, les containers qui font le trafic, le commerce international. Les camions, limite. Mais bref, on va se retrouver avec des problèmes. Et toutes les autres technologies qu'on nous annonce, oh l'hydrogène, ça fait déjà 30 ans qu'on nous parle d'hydrogène. C'est pas dans 30 ans qu'on a besoin d'hydrogène, ou qu'on a besoin d'une technologie qui va nous sauver. C'est demain matin. C'est même aujourd'hui. Puis ce qu'on sait, c'est que les changements technologiques dans le domaine énergétique, ben, ça prend en général plusieurs décennies. Fait que la solution, elle se trouve pas là-dedans. Elle se trouve dans une descente énergétique. Il faut trouver les moyens de répondre à nos besoins en consommant moins d'énergie. Et ça va impliquer d'abord et avant tout, premier problème, de réduire notre consommation de pétrole. Ça implique de réduire le transport des marchandises et des personnes. Et ça, évidemment, ça a de graves conséquences pour l'économie capitaliste. Et si on ne le fait pas, si on n'organise pas, si on ne planifie pas cette descente énergétique, c'est sûr que ça va être une crise sociale. C'est sûr. C'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir à comment on organise l'économie, puis comment on est capable de planifier pour réduire notre consommation d'énergie. Puis pour ça, il faut ouvrir des espaces démocratiques qui vont être en mesure d'affronter ces graves questions. Ensuite, en conclusion, la lutte qui nous occupe, la lutte pour la justice climatique, ce n'est pas une lutte pour la météo, pour le climat. C'est d'abord et avant tout une lutte contre l'industrie fossile. Je vous l'ai dit au début, je le répète, 80% des émissions de gaz à effet de serre sont reliées essentiellement à la combustion des hydrocarbures. Il faut qu'on mette le doigt là-dessus, qu'on arrête de parler « Oh, les GES en général! » On sait où se trouvent les leviers. Et il faut être en mesure de les affronter. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'un point de vue de l'économie capitaliste? Ben, l'industrie fossile, c'est probablement la plus grosse industrie de l'économie capitaliste. Dans les top 100 des entreprises dans le monde, vous avez à peu près toutes les grandes compagnies de pétrole et du gaz sont là, charbon, extraction. Ce sont les plus grosses. Autrement dit, si on veut affronter ces entreprises puis leur dire « il faut fermer, c'est fini ». C'est fini le party, là. C'est fini, là. On ne peut plus continuer à faire du profit sur une humanité qui est en train d'être hypothéquée et déjà affectée. Si on veut être en mesure de fermer cette entreprise-là, ça veut dire qu'on doit en prendre le contrôle parce qu'ils ne vont pas le faire demain. Pourquoi? Ben encore une fois, ça nous amène à la structure même de l'économie capitaliste. Ces entreprises-là ont énormément investi. Elles ont des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Des dizaines de milliards d'investissements dans des pipelines, des raffineries, des réserves. Tout ça, ça a une valeur. Ce sont des actifs. Quelle entreprise accepterait là, du jour au lendemain de dire « Ok, c'est bon, on laisse tout tomber, on repart, je m'en vais à la commune, là, c'est bon, on va aller planter des carottes. » Il n'y a aucune entreprise qui va lâcher le morceau. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à assumer ce conflit-là. On ne sera jamais d'accord et on ne pourra pas les convaincre. Il va falloir assumer qu'il y aura un conflit et que c'est un enjeu de rapport de force. Autre graphique pour vous illustrer ça. Aujourd'hui même, exclusivité, c'est sorti dans Le Devoir, grâce à notre excellent journaliste Alexandre Shields dans Le Devoir. The Production Gap, produit rapport de l'ONU, un des rapports de l'ONU, entre autres, qui est sorti, la nouvelle version, ça fait déjà 2 ans qu'ils produisent des rapports. La nouvelle version est sortie aujourd'hui. C'est quoi ça, The Production Gap? On pourrait appeler ça le fossé de production. C'est l'écart entre la réalité puis nos espoirs, ben en fait, ou plutôt les espoirs de l'industrie fossile puis les espoirs de la survie de l'humanité. C'est ça l'écart. C'est-à-dire qu'ils ont recensé c'est quoi les projections de production de charbon, de gaz naturel, de pétrole, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ça veut dire quoi? Ben c'est beaucoup au-dessus de cette ligne-là, c'est-à-dire au-dessus de... ici, c'est 1,5 degré. Le 1,5 degré, vous le savez, d'un point de vue climatique, c'est la limite à ne pas dépasser. C'est déjà le bordel aujourd'hui. 1,5 degré, ça va commencer à être chaud. 2 degrés, je ne veux pas le savoir. Donc, globalement, ça veut dire quoi? L'industrie fossile est déjà en train de planifier de produire 2 fois plus d'hydrocarbures que la planète est capable d'en absorber. Ça, c'est leur planification. Ils ont fait leurs investissements en fonction de ça. C'est ça qu'ils disent aux investisseurs et c'est ça qu'ils comptent faire. Donc, c'est là que ça se passe. Et ça, c'est l'écart de la lutte. Il y a déjà des choses qui sont passées dans le passé, mais ça, vous voyez là, 2 degrés ici, là, imaginez là-haut, on va être à combien? 4? 6? Qui sait? Là, on ne sait plus. Là, on passe d'un côté de... et ça, c'est, vous le voyez, là, c'est les prochaines années. On peut tourner, là c'est détaillé en fonction des sources d'hydrocarbures. Charbon, pétrole, gaz... Charbon, encore très très fort, mais ça descend tranquillement parce qu'il y a eu un travail important sur la pollution du charbon liée aussi aux polluants atmosphériques. Le pétrole, il remonte, mais le pire, en termes de croissance, c'est le gaz. Le gaz qu'on nous vend comme une énergie de transition, pourtant, même l'Agence internationale de l'énergie, qui est surtout du lobby pro-pétrole, dit que ce n'est pas une énergie de transition, il va falloir commencer à réduire. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai mis à la fin. Bon, c'est ça. C'est ça le problème. Là, c'est quoi ça?
Patate.
C'est. Hein?
Patate.
Ouais, patate. C'est le capital. Le capital. Les réserves d'hydrocarbures, plus de 80% des réserves d'hydrocarbures doivent rester sous terre. Sinon, on est cuit. Et ça commence ici, au Canada. 83% au Canada, pour être précis, des réserves d'hydrocarbures doivent rester sous la terre. C'est une question de survie. Et déjà, c'est une question de survie pour des peuples qui sont davantage affectés par les changements climatiques que nous. À peu près 97% des gens qui sont affectés pour l'instant sont dans les pays du Sud. Ça, le problème, c'est qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils vont lâcher le morceau comme ça? Non. Au Canada, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Un rapport qui est sorti récemment cette année, du Cascade Institute. Qu'est-ce que prévoit l'industrie du pétrole et du gaz et Trudeau derrière lui, à coup de son financement de subventions renouvelées d'année en année? Ici, vous avez un graphique qui représente le budget carbone global. ça, c'est tout ce qui nous reste d'émissions permises avant qu'on dépasse le 1,5 degré, à l'échelle de la planète globale, l'échelle de la planète. Qu'est-ce que prévoit l'industrie du pétrole et du gaz au Canada? Prévoit bouffer 16% de toutes les émissions qu'on serait autorisé à faire à l'échelle de la planète. Donc, pour le Canada, ça veut dire que tout le reste, là-dedans, j'exclus toutes les autres émissions qui peuvent avoir lieu au Canada d'autres secteurs. On est combien sur la planète de Canadiens? Pas beaucoup, hein. Peut-être 30 millions, un peu plus. Peut-être 0,5% de l'humanité. Puis là, notre industrie, l'industrie fossile, je dis notre, défaut de langage, c'est des grosses compagnies, des grosses corporations qui ne nous appartiennent pas, prévoit bouffer 16% du budget carbone global qui reste. Fait que l'enjeu, c'est de ne pas les laisser faire. Elles ne vont pas arrêter toutes seules. Il va falloir les arrêter. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Merci.
Yes.
Donc voilà, merci beaucoup. On va faire une petite pause. S'il y en a qui doivent aller au petit...